Je vais vous demander de fermer les yeux et d'imaginer des champs remplis de cerisiers en fleurs à perte de vue, en pleine campagne russe. Un fleuve dessine son chemin à travers des arbres centenaires. Au milieu, une grande maison, qui de génération en génération se passe dans votre famille, mais vous êtes la dernière. C'est ici que se joue l'intrigue de la pièce La Cerisée d'Anton Tchekhov.
Vous écoutez Servante, cette lumière qui chasse les mauvais esprits des scènes de la nuit, mais qui ici illumine les classiques. Donnez vie à cet épisode, vous pourrez entendre Mathilde Fardao, Lisa Duhamel, Maëlle Le Divelec, Abel Garnier Van Roger, Enzo Gaumont, et vous serez guidés par Lison Deluenne, Solène Ève et Ambre Rivard. Mais avant de nous plonger dans cette fascinante histoire, intéressons-nous un peu plus à Tchekhov. Bonjour Anton Tchekhov, c'est un plaisir de vous recevoir ici. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter simplement pour nos quelques auditeurs qui ne vous connaissent pas ?
Avec plaisir. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Anton Tchekhov. Je suis un auteur dramaturge du 19e, ce qui veut dire que même si je suis mort il y a bien longtemps, il y a des photos de moi. En noir et blanc, il ne faut pas exagérer non plus. Ah, et je suis de nationalité russe.
Vous définissez comme auteur et dramaturge, mais vous n'avez pas fait des études de lettres si je me trompe.
Effectivement, j'ai fait des études de médecine. Je suis même médecin. Même si mes écrits m'ont bien plus rapporté que la médecine. Mais c'était important pour moi de prendre soin des autres, même s'ils ne pouvaient pas payer tout le temps.
L'argent était une question importante dans votre vie ?
Surtout au début. Mes parents avaient une épicerie qui a fait faillite. Alors, pour éviter la prison, mon père a dû fuir à Moscou. Mais j'avais mes études, donc je suis resté. Pour vous dire, je devais donner des cours particuliers pour pouvoir vivre quand je préparais mon baccalauréat. Mais au fil des années, ma situation s'est améliorée.
Comment est venu votre amour pour le théâtre ?
Dès petit, j'allais au théâtre municipal avec ma famille. Je montais des pièces avec mes frères et sœurs. C'était pratique car on était 6. L'écriture est arrivée plus tard, à l'adolescence.
Mais l'écriture ne vous a jamais quitté ?
Non. J'ai continué. D'abord, en parallèle de mes études de médecine, pour gagner plus d'argent, je publiais sous différents pseudos pour plus publier. Vous vous rendez compte ? Mais je n'écrivais pas que du théâtre. Des nouvelles, des romans, etc.
Concernant La Cerisée, elle est écrite en Crimée. Moscou ne vous plaisiez plus ?
Oh non, au contraire. Moscou me manque. Mais pour ma tuberculose, les médecins m'ont conseillé d'aller m'installer dans des zones plus tempérées. Mais c'est un déchirement d'être loin de Moscou, et surtout de ma femme Olga Knipper, qui devait rester à la lumière des projecteurs de la capitale.
Tuberculose qui vous fut fatale lors d'un séjour en Allemagne.
Malheureusement, ma femme rapporta que mes derniers mots étaient « Cela fait longtemps que je n'ai plus bu du champagne ».
Merci Anton Tchekhov pour toutes ces réponses. Passons maintenant au cœur de l'émission, le résumé de La Cerisée.
La pièce se passe dans le domaine de la cerisaie. La cerisaie, c'est un énorme domaine magnifique, rempli de cerisiers, et qui depuis des générations se transmet dans une seule et même famille.
On rencontre Dunyasha, femme de chambre du domaine, et Lopakin, un marchand devenu très riche après avoir connu la misère. Et tous deux attendent avec impatience le retour de Lyubov Andreevna, qui est la propriétaire du domaine. Sa fille de 17 ans, Anya, est partie la chercher à la gare avec sa gouvernante.
Tout le monde est là pour l'accueillir. Famille, amis, voisins, ils sont hyper impatients car ça fait 5 ans qu'elle n'est pas revenue.
C'est vrai que depuis le drame...
Depuis que le fils de Lyubov Andreevna s'est noyé dans la rivière du domaine...
Elle a voulu partir pour oublier et n'est pas revenue. Elle vit à Paris depuis 5 ans avec son amant.
Mais là, elle n'avait pas le choix. Elle doit revenir une dernière fois pour vendre la cerisée.
C'est pas que Lyubov Andreevna veuille particulièrement s'en débarrasser. Au contraire... C'est que, disons, financièrement...
C'est pas la forme.
Enfin, ils sont carrément ruinés. Mais ça, Lyubov Andreevna, elle n'a pas l'air de le comprendre parce qu'elle continue de donner de l'argent à qui veut, à commander les plats les plus chers au restaurant et à entretenir son mec à Paris qui en profite bien.
Donc, elle revient pour régler tout ça. À son arrivée, c'est la joie. Tout le monde est content de se retrouver. Chacun raconte ce qu'il est devenu. On est nostalgique de l'époque où on se voyait plus souvent.
Dans ce premier acte, on rencontre aussi d'autres personnages, comme Varia, qui est la fille adoptive de Lyubov Andreevna et qui est restée au domaine pour gérer les affaires.
Il y a aussi Trofimov, un éternel étudiant, ancien précepteur du fils...
Enfin, le fils qui s'est noyé.
Ce qui ramène aussi quelques petits souvenirs douloureux chez Lyubov Andreevna.
Dans les retrouvailles, Lopakhin, celui qui est devenu riche, lance une idée. Il propose une solution pour sauver la cerisée et qu'elle reste dans la famille comme c'est le cas depuis des générations.
J'ai envie de vous dire quelque chose de très agréable, de joyeux. Il faut que j'y aille, j'ai pas le temps de bavarder. Bon, je vous dis ça en 2-3 mots. Comme vous le savez, votre cerisée sera vendue pour dette. Les enchères sont fixées au 22 août. Mais ne vous en faites pas, ma bonne amie, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, il y a une issue. Voilà mon projet. Attention, s'il vous plaît. Votre domaine n'est situé qu'à 20 vertes de la ville. Le chemin de fer y passe tout près. Prenez votre cerisée et toutes les berges de la rivière. Faites-y des lotissements, vous les louerez ensuite aux estivants pour leur datcha. Et vous avez, au bas mot, 25 000 roubles de revenus par an.
Je ne vous suis pas bien, Ermolaï Alexeïtch. La raser ? Mon cher, excusez-moi, vous ne comprenez rien. S'il y a quelque chose d'intéressant dans toute la province, d'extraordinaire même, c'est notre cerisée.
Si nous ne trouvons rien, si rien ne se décide, le 22 août, la cerisée et le domaine avec, tout sera vendu aux enchères. Décidez-vous donc. Il n'y a pas d'autre issue, je vous le jure, il n'y en a pas.
Bon, c'est pas gagné.
Après, l'intrigue vient juste d'être annoncée, il reste encore 3 actes pour résoudre tout ça.
D'ailleurs, l'acte 1 se finit, car tout le monde est parti se coucher. Il est temps de passer au deuxième acte.
Le deuxième acte se déroule dans les magnifiques jardins de la cerisée.
Étant donné qu'ils ne sont toujours pas convaincus du plan que leur a proposé Lopakhin, ils essaient de trouver d'autres solutions en faisant des prêts à la banque ou en demandant de l'argent à des proches. Mais rien n'a l'air vraiment concluant.
Lyubov Andreevna profite de son retour pour essayer d'arranger d'autres affaires, avec Lopakhin par exemple.
Mon père était un moudjik, un idiot. Il ne comprenait rien. Il ne m'apprenait rien, il ne faisait que me battre quand il avait bu. Et toujours à coups de bâton. Au fond, je suis comme lui. Un abruti, un idiot. Je n'ai jamais fait d'études, j'ai une écriture impossible, au point que j'en ai honte devant les gens, un vrai cochon.
Il faudrait vous marier, mon bon ami.
Oui, c'est vrai.
Avec notre Varia. C'est une fille très bien.
Oui.
Elle vient d'une famille simple, elle travaille toute la journée et surtout, elle vous aime. Et puis, vous, il y a longtemps qu'elle vous plaît.
Ma foi, je n'ai rien contre. C'est une jeune fille très bien.
Rappelle-moi, Varia, c'est qui ?
La fille adoptive de Lyubov Andreevna. C'est elle qui gérait le domaine en son absence. Son histoire de mariage avec Lopakhin ne mènera à rien, car en réalité, Varia veut devenir religieuse et aucun des deux ne font vraiment de pas l'un vers l'autre, même si tout le monde s'attend à ce qu'ils se marient.
La discussion continue. On parle de mariage, d'humanité, de relations sociales et d'argent. Mais la scène est perturbée par un homme paumé, un peu bourré, qui débarque, effrayant Varia. Il demande le chemin et de l'argent. Évidemment, Lyubov Andreevna, qui n'a pas compris qu'elle était ruinée, lui donne plus que ce qu'il avait demandé. Elle se fait alors réprimander par sa fille Varia.
Sur ce, tous partent.
Enfin, il en reste quand même deux. Anya, la fille de Lyubov Andreevna, et Trofimov, l'éternel étudiant, fou amoureux d'elle. Il parle de renouveau, de partir loin des souvenirs poussiéreux et, de préférence, avec lui.
Ben voyons...
Varia a peur que nous tombions amoureux l'un de l'autre. Elle ne peut pas comprendre avec son esprit étroit que nous sommes au-dessus de l'amour.
Qu'avez-vous fait de moi, Petia ? Pourquoi la cerisée m'est-elle moins chère qu'avant ? Je l'aimais si fort. Il me semblait qu'il n'y avait pas au monde d'endroit plus beau que notre cerisée.
Toute la Russie est notre cerisée. La terre est vaste et belle. Il y a beaucoup d'endroits splendides. Nous sommes en retard d'au moins 2 siècles. Nous n'avons rien de rien. Pas de rapport défini avec notre passé. Nous ne faisons que philosopher, nous plaindre de l'ennui ou boire de la vodka. C'est tellement clair, pour commencer à vivre dans le présent, il faut d'abord racheter notre passé, en finir avec lui. Et l'on ne peut le racheter qu'au prix de la souffrance, au prix d'un labeur inouï et sans relâche. Comprenez cela, Anya.
La maison dans laquelle nous vivons n'est plus notre maison depuis longtemps déjà. Et je partirai, je vous en donne ma parole. Allons vers la rivière, c'est beau là-bas.
Allons-y.
Pour l'acte 3, c'est la fête.
Enfin, un peu bizarre l'ambiance de la fête, car c'est le jour de la vente aux enchères de la cerisée. Donc, entre les musiciens, les boissons, les taquineries...
Madame Lobakine.
L'éternel étudiant, déjà deux fois exclu de l'université.
Pourquoi te mets-tu en colère, Varia? Il se moque de toi à cause de Lobakine. Et alors, si tu veux, marie-toi avec Lobakine. C'est quelqu'un de très bien, d'intéressant. Si tu ne veux pas, ne le fais pas. Personne ne t'y oblige, ma petite fille.
J'y pense très sérieusement, ma bonne maman. Il faut le dire en toute franchise, c'est quelqu'un de très bien, il me plaît. Mais je ne peux quand même pas aller moi-même lui demander sa main. Voilà deux ans que tout le monde me parle de lui, tout le monde. Et lui, soit il se tait, soit il plaisante. Si de l'argent se trouvait, même un petit peu, même 100 roubles, je laisserais tout et j'en irais bien loin. J'entrerais au couvent.
La sainte vie.
Un étudiant, ça devrait être intelligent.
À cette fête, il y a aussi les tours de magie, le billard. Et il y a notre cher Lyubov Andreevna qui n'est pas vraiment dans l'ambiance.
J'ai le cœur serré aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous l'imaginer. Ici, tout est si bruyant. Mon âme sursaute à chaque bruit. Je tremble de tout mon corps, mais je ne peux pas me retirer chez moi. J'ai peur d'être seule. Je tremble de tout mon corps, mais je ne peux pas me retirer chez moi. J'ai peur d'être seule dans le silence. Ne me jugez pas.
Quand soudain, Anya annonce...
Tout à l'heure, dans la cuisine, un homme a dit que la cerisée était déjà vendue.
Vendue à qui?
Il n'a pas dit à qui. Il est parti.
Donc on ne sait pas à qui c'est?
Si, si, il faut juste attendre plusieurs pages que des gens reviennent de la vente. Tiens, Lobakine vient d'arriver.
La cerisée est vendue?
Elle est vendue.
Qui l'a achetée?
Moi. Moi. Attendez, mesdames et messieurs, de grâce, tout s'embrouille dans ma tête, je n'arrive pas à parler. Mon Dieu, mesdames et messieurs, la cerisée est à moi. Dites-moi que je suis saoul, que j'ai perdu la raison, que tout ça n'est que dans mon imagination. Ne vous moquez pas de moi. Si mon père et mon grand-père pouvaient sortir de leur tombe, et s'ils pouvaient tout voir, tout ce qui s'est passé, comment leur Ermolaï, cet Ermolaï illettré que l'on battait et qui courait pieds nus l'hiver, comment cet Ermolaï a acheté cette propriété, la plus belle du monde? J'ai acheté la propriété où mon grand-père et mon père étaient esclaves, là où l'on ne les laissait même pas entrer dans la cuisine. Je dors, je rêve, je ne fais qu'imaginer tout ça.
Bon, du coup, c'est plus trop la fête.
Et l'acte se termine avec Anya qui rassure sa maman.
Maman? Maman, tu pleures? Ma chère, ma bonne, ma gentille maman, ma merveilleuse maman, je t'aime, je te bénis. La cerisée est vendue, c'est fini, c'est vrai, mais ne pleure pas, maman, il te reste ta vie, il te reste ton âme bonne et pure, viens avec moi, partons d'ici, partons. Nous planterons un nouveau jardin, plus beau que celui-ci, tu le verras, tu le comprendras et la joie, une joie calme et profonde descendra dans ton âme comme le soleil du soir. Tu souriras, maman. Partons, ma chérie, partons.
Pour le quatrième et dernier acte, on retrouve tout le monde sur le départ, les valises sont faites et le train part dans 40 minutes.
Avant de partir, Lyubov Andreevna a encore quelques trucs à régler.
Maintenant, on va pouvoir partir. Je pars avec deux soucis. Le premier... C'est Firs qui est malade. Il nous reste encore 5 minutes.
Maman, on a déjà envoyé Firs à l'hôpital. Yasha l'a envoyé ce matin.
Mon second chagrin, c'est Varia. Elle est habituée à se lever tôt, à travailler, et maintenant, sans travail, elle est comme un poisson sans eau. Elle a maigri, elle est pâle, elle pleure, ma pauvre chérie. Vous le savez très bien, Ermolaï Alexeïvitch. Je rêvais de la marier avec vous, et tout laisser croire que vous aussi vous vouliez vous marier. Elle vous aime. Et elle vous plaît aussi, et je ne sais pas pourquoi justement vous vous évitez l'un l'autre, je ne comprends pas.
Moi non plus, je ne comprends pas, je l'avoue, tout ça est bien étrange. Si nous avons encore le temps, alors moi je suis prêt tout de suite. Finissons-en une bonne fois pour toutes et basta. Car sans vous, je le sens bien, je ne ferai pas ma demande.
Merveilleux, il ne faudra pas plus d'une minute.
Une fois que c'est réglé, tous partent de la maison.
Et là, vous dites, c'est fini, ils sont partis.
Eh bien non, parce qu'il restait Firs. Le fidèle vieux laquais du domaine qu'ils ont oublié.
Enfin, ils l'ont pas vraiment oublié, ils pensaient qu'il était à l'hôpital.
N'empêche qu'il est à l'intérieur de la maison, seul. Donc, il essayait de sortir, mais la porte est fermée.
Alors, il prononce les dernières paroles de la pièce.
Et qui sont aussi ses dernières paroles à lui, car il se pend après.
Et c'est ainsi que se termine La Cerisée.
La Cerisée, c'est l'avant-dernière pièce de Tchekhov, alors qu'il est très malade de la tuberculose à seulement 44 ans. Il fera sa dernière apparition publique à la première de la pièce au Théâtre d'Art de Moscou en janvier 1904, mise en scène par Constantin Stanislavski, mise en scène que Tchekhov détestait d'ailleurs, mais elle a quand même fortement contribué au succès de la pièce. Aujourd'hui, La Cerisaie est considérée comme l'une de ses pièces les plus célèbres et les plus abouties. Il y allie avec finesse le comique et le tragique, dépeignant l'aristocratie russe de son époque qui se retrouve confrontée à la perte de ses privilèges via la progression de l'industrie. Les arbres de la Cerisaie, symbole de ses souvenirs et de cette gaieté de la jeunesse, sont abattus et arrachés par la fatalité du progrès et du temps qui passe. C'est toujours agréable de se moquer des riches qui pleurent, surtout au théâtre. Tchekhov y traite également des thèmes universels comme le deuil, la peur du temps qui passe, la trahison mais aussi le pardon. On y accompagne ces personnages en quête désespérée de la paix intérieure. Cette pièce a un impact indéniable sur le théâtre et la littérature russe, mais aussi à l'international et résonne toujours aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que Tchekhov est l'un des auteurs étrangers les plus joués en France avec Shakespeare et Ibsen. Si vous passez par Paris au début de l'été, vous aurez l'occasion d'assister à une mise en scène de cette pièce au Théâtre des Champs-Élysées du 3 au 7 juillet, une version en langue chinoise, mise en scène par le regretté Rimas Tuminas.
Attention, qu'est-ce qui a fait partir Lyubov Andreevna et sa fille de la propriété ? La noyade de son fils ? Le goût de l'aventure ? Elle a été expulsée du pays ? Ou ce n'est pas dit dans la pièce ? La bonne réponse était la noyade de son fils dans la rivière du domaine. C'est pour faire le deuil qu'elle part à l'étranger. Attention, deuxième question. Quelle est la proposition de Lopakine ? Mettre des vaches sous les cerisiers ? Faire de la confiture de cerises ? Parier l'argent qu'il reste au casino pour se refaire ? Ou vendre des parcelles pour des résidences d'été ? J'espère que vous avez répondu la dernière réponse. Vendre des parcelles du terrain pour faire des résidences d'été. Ce qui n'a pas du tout plu à Lyubov Andreevna. Si vous n'avez pas eu bon, c'est votre moment. Qui a racheté la cerisée ? Anya ? Lyubov Andreevna ? Lopakine ? Tchekhov ? Alors, si on procède par élimination, Tchekhov était le dramaturge, donc je ne pense pas qu'il ait pu racheter le domaine. Anya et Lyubov sont justement les vendeurs, les vendeuses. C'est donc bien Lopakine qui a racheté la cerisée. Et pour terminer, dernière question. Comment se finit la pièce ? En grosse fiesta boum boum ! Firs se pend car il a été oublié dans la maison. En fait, Lopakine est ruiné aussi et doit vendre la cerisée. Lyubov Andreevna découvre que son fils n'est jamais mort. Et la bonne réponse était Firs, qui se pend car il a été oublié dans la maison. J'espère que vous avez eu un maximum de bonnes réponses. Bon, avant de finir l'émission, place à la recommandation musicale.
Si l'envie vous vient de vous balader dans une cerisaie avec les pétales qui tombent et la nostalgie qui monte, je vous recommande de lancer dans vos écouteurs Homesick de Wave to Earth, une chanson de 2023 où l'on pleure le temps qui passe et la maison qu'on ne reconnaît plus.
Merci pour votre écoute. Si vous voulez continuer à en apprendre plus ou à réviser vos classiques, n'hésitez pas à réécouter cette émission en podcast sur phoenix.fm ou sur toutes les plateformes d'écoute en ligne, même votre préférée.
Si le cœur vous en dit, vous pouvez même partager l'émission à tous vos amis qui auraient besoin de se rafraîchir un peu la mémoire ou simplement d'en apprendre davantage sur les classiques.
C'était Solène Ève, Lison de l'UN. Et Ambre Rivard dans Servante. Merci à Maëlle Le Divelec, Lisa Duhamel, Mathilde Fardaou, Abel Garnier-Van-Roger et Enzo Gaumont. Merci à Radio Phoenix de permettre à cette émission d'exister et tout particulièrement à Anaël. Merci à Émile, merci à Maïté Namangou pour les superbes musiques qu'elle a composées et surtout merci à Anton Tchekhov.
Servante revient le mois prochain sur Radio Phoenix et sur toutes vos plateformes de podcasts préférées pour continuer à illuminer les classiques. À bientôt!
Take me.